Matignon cherche nouveau locataire. François Bayrou contraint à la démission. Les députés n'ont pas accordé leur confiance au Premier ministre et son gouvernement. La France va se retrouver sans Premier ministre. Quelles conséquences pour la situation politique en métropole, mais aussi pour le processus entamé en Calédonie autour de l'accord de Bougival? Page spéciale dès le début de ce journal. Sur le territoire, un meurtre jugé devant les assises. L'homme qui comparaît depuis ce matin est accusé d'avoir tué son voisin au cours d'une bagarre alcoolisée. La province sud poursuit son plan collège nouvelle génération. Elle a inauguré le nouveau CDI et les nouvelles pergolas au collège de Tuban. Du football dans la page sport. Après leur victoire sur l'Ukraine, les Bleus de Didier Deschamps affrontent demain l'Islande. Deuxième match de qualification à la Coupe du Monde 2026. Et puis nous prendrons des nouvelles de Yolaine Niengo. La rugby woman calédonienne évolue désormais au Japon et elle est de passage sur le territoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Comme chaque mardi, il sera suivi par le magazine Citoyen. Bonjour Lionel Sabot.
Bonjour Jean-François Bodin.
Avec vos invités, vous parlerez cette semaine des classes défense.
Effectivement, il en existe, on le sait, plusieurs sur le territoire, ici en Nouvelle-Calédonie, dans les trois provinces, dans de nombreux établissements scolaires, collèges et lycées. Alors à quoi servent ces classes de défense? Qu'apportent-elles aux élèves? Nous poserons ces questions à nos invités. Nous serons en compagnie de Cynthia Frisoni. Elle est professeure d'histoire-géographie. Elle est aussi l'une des deux référentes de la classe défense du collège Edmé Varin à Dimbéa. Elle viendra avec deux de ses élèves, Marie-Lou et Zélie. Présent également Isabelle Amiot, qui est inspectrice en histoire-géographie, déléguée du trinôme académique au vice-rectorat. Nous serons également avec le lieutenant-colonel José Franco. Il est directeur du Centre du Service National et de la Jeunesse en Nouvelle-Calédonie, magazine citoyen que nous retrouvons juste après votre journal, Jean-François.
François Bayrou va donc quitter Matignon. Il n'y a pas eu de miracle cette nuit pour nous à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, qui avait engagé la confiance de son gouvernement sur son projet de réforme des finances publiques pour économiser 44 milliards d'euros sur le budget 2026, a donc, sans réelle surprise, perdu son pari. Une large majorité de députés a voté contre la confiance. Les résultats du vote ont été annoncés par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.
Nombre de votants, 573. Nombre de suffrages exprimés, 558. Majorité absolue des suffrages exprimés, 280. Pour l'approbation, 194. Contre, 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement.
Jusqu'au bout, François Bayrou aura pourtant tenté de sauver son poste et dans sa déclaration de politique générale, il avait une nouvelle fois alerté sur les risques d'une nouvelle chute du gouvernement.
Le risque pour la France demeurera entier. Mesdames et messieurs les députés, vous avez le pouvoir de renverser le gouvernement, mais vous n'avez pas le pouvoir d'effacer le réel.
Mais rien n'y a fait et les députés ont renversé le gouvernement. Tous les groupes de gauche ont rejeté la confiance, communistes, écologistes, LFI et les socialistes. Leur chef de groupe, Boris Vallot, a même laissé entendre qu'il attendait la nomination d'un socialiste à Matignon.
En votant aujourd'hui contre la confiance, les socialistes prennent la responsabilité d'affirmer qu'ils sont prêts à gouverner.
Aucun état d'âme non plus au Rassemblement national qui a refusé la confiance au gouvernement. Marine Le Pen plaide une nouvelle fois pour un retour aux urnes, si ce n'est pour une présidentielle, puisqu'Emmanuel Macron exclut de démissionner, au moins pour des législatives.
L'alternance n'est pas un gros mot, c'est une respiration normale de la démocratie. L'arbitrage, c'est revenir au peuple souverain. Sans dissolution, Emmanuel Macron bloque aussi le pays.
Les positionnements sont un peu moins clairs au sein des LR. 13 d'entre eux ont voté contre la confiance au gouvernement, à l'encontre de la ligne du parti. Leur chef de groupe, Laurent Wauquiez, s'en est expliqué.
On ne vous demandait pas de vous renier. Vous avez fait un choix, je le respecte, mais je ne demande jamais aux députés de mon groupe de voter contre leur conscience.
François Bayrou remettra donc sa démission ce soir à 17h, heure de Nouméa, au président de la République. Il restera ensuite pour gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination de son successeur. On sait qu'Emmanuel Macron n'entend pas démissionner et qu'il privilégie la nomination d'un nouveau Premier ministre à une nouvelle dissolution. L'Élysée annonce d'ailleurs la nomination d'un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours. Reste à savoir qui, Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Marine Le Pen plaidait encore récemment pour une dissolution, mais le Rassemblement national s'est fait une raison et préfère désormais peser pour obtenir le Premier ministre le plus RN compatible. L'objectif, c'est d'éviter à tout prix la nomination d'un socialiste à Matignon. Un profil comme Sébastien Lecornu, qui entretient de bonnes relations avec Marine Le Pen, pourrait représenter un moindre mal pour le parti. de l'autre côté de l'échiquier politique. Jean-Luc Mélenchon appelle tout simplement Emmanuel Macron à partir. En restant, il provoquera une situation encore plus explosive qu'aujourd'hui, affirme le chef de file des Insoumis. Analyse partagée par Éric Zemmour, favorable à une élection présidentielle, comme certains élus LR, Valérie Pécresse ou David Lisnard notamment. Enfin, même le bloc central y va de ses conseils au président. Gabriel Attal appelle ainsi Emmanuel Macron à un renversement profond de méthode. Il faut commencer par le quoi avant le qui, affirme le président de Renaissance, dans une interview qui illustre la perte de capital politique du chef de l'État.
Les deux députés calédoniens étaient présents dans l'hémicycle pour cette séance historique, mais ils ont voté différemment, Elisabeth Noir.
Nicolas Metzdorf a voté la confiance au gouvernement Bayrou, comme il l'avait annoncé, alors qu'Emmanuel Tchibaou a, lui, voté contre. Le député de la première circonscription était d'ailleurs en direct sur RRB ce matin à 7h30. Il est revenu d'abord sur l'ambiance qui a régné au sein du Palais Bourbon pour cette séance, pas comme les autres.
J'ai trouvé que c'était une ambiance plutôt à la résignation, parce que c'était couru d'avance. C'était un résultat que tout le monde attendait, à la fois les ministres sortants et les députés. Donc il n'y avait pas d'électricité dans l'air comme il y avait pu en avoir pour Michel Barnier à l'époque. C'était beaucoup plus calme. Donc le score est sans appel. L'Assemblée nationale a clairement voté la défiance envers François Bayrou. Et donc maintenant, l'idée, c'est de regarder vers l'avenir.
Nicolas Metzdorf, qui a donc fait partie des 194 députés qui ont voté la confiance au gouvernement. Un vote de cohérence, dit-il, dans le cadre du soutien à l'accord de Bougival.
J'ai voté la confiance en cohérence, c'est-à-dire qu'on a longtemps discuté sous l'égide du président de la République, de François Bayrou et de Manuel Valls. On a trouvé un accord politique sur la Nouvelle-Calédonie à Bougival. On est dans la mise en œuvre de l'accord par ce gouvernement avec le projet de loi constitutionnel. Si j'ai voté contre ce gouvernement, ça veut dire que j'étais en contradiction avec moi-même et avec l'accord qu'on avait signé. Donc j'ai voté la confiance en François Bayrou, notamment et quasi exclusivement pour la politique menée en Nouvelle-Calédonie. Donc je l'ai assumé tout de suite et je ne regrette pas mon choix.
Vous le disiez, l'Élysée a annoncé que le président de la République nommerait un nouveau Premier ministre dans les tout prochains jours. Ce serait mieux pour le dossier calédonien et pour la mise en œuvre de Bougival, souligne le député de la première circonscription.
Si un gouvernement très rapidement, le calendrier ne serait même pas du tout bousculé. Plus le gouvernement met du temps à être en place, plus le calendrier est décalé. Par contre, s'il y a dissolution, là, c'est clairement, je pense, une remise en cause de Bougival.
Et est-ce qu'il pourrait y avoir un nouveau ministre des Outre-mer ou est-ce que Manuel Valls semble conforté dans son poste, quoi qu'il arrive, quel que soit le Premier ministre ?
Écoutez, moi, je l'ai rencontré ce matin. Je l'ai trouvé plutôt serein, le ministre des Outre-mer, plutôt sûr de lui. Donc, est-ce qu'il y a des garanties ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'expérience de ces moments-là qui fait qu'il soit aussi calme ? Je ne sais pas non plus. Ce que je peux dire, c'est qu'il avait l'air plutôt confiant sur le fait qu'il revienne au gouvernement.
Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview du député Nicolas Metzdorf en podcast audio sur notre site internet. A l'inverse, le député de la seconde circonscription, Emmanuel Tchibaou, a voté contre la confiance et il s'en est expliqué au micro de notre correspondant à Paris.
J'ai voté contre la motion de confiance. D'une part, par solidarité avec mon groupe. J'ai voté contre également parce que les éléments d'appréciation qu'on a partagés sur la suite du processus institutionnel pour nous, notamment sur ce qui a été dit le soir du 11 juillet dernier, était la parole donnée par l'État sur la poursuite des discussions, des négociations. Aujourd'hui, on est passé d'un projet d'accord à un compromis historique. Nous, on est toujours ouvert à la discussion. L'accord politique de Bougival, c'était pari sur la confiance. Moi, j'ai été un peu échaudé par ce qui s'était passé à Bougival vis-à-vis des engagements qu'a pris l'État pour la délégation que je dirigeais. Aujourd'hui, c'est cet engagement-là qui est posé sur la table par l'État français. Je ne pourrais pas m'y soumettre ni cautionner une parole qui a été pour moi dévoyée par ce qui a été dit par le ministre par la suite. Et la discussion doit se poursuivre. On reste déterminé à trouver un accord politique pour apporter la stabilité et regagner la confiance auprès non seulement des acteurs économiques, mais surtout de l'ensemble de nos compatriotes au pays.
Emmanuel Tchibaou, qui, comme tous les députés de gauche, a voté contre la confiance au gouvernement Bayrou.
Et au-delà des conséquences politiques, avec la chute du gouvernement, le projet de budget 2026 n'existe plus. C'est donc une course contre la montre qui est engagée et qui aura des répercussions économiques. Les explications de Jean-Baptiste Marty.
La censure annule les mesures d'économie prévues par le gouvernement. Elle ouvre aussi une période d'instabilité pour les entreprises. Sans vision à moyen terme sur le cadre social, fiscal et réglementaire, elle redouble de prudence. Les investissements et les embauches sont freinées, voire gelées. Selon les calculs de Bercy, la censure du budget de Michel Barnier avait coûté 12 milliards d'euros. Une estimation surévaluée selon la plupart des économistes, mais le coût d'une censure se chiffre bien à plusieurs milliards d'euros selon Anthony Morlet-Lavidali, économiste chez Rexecode.
Quand vous rentrez dans une forme de crise politique, ça a des coûts économiques, à la fois sur l'investissement, mais aussi sur la consommation des ménages. Plus cette situation a vocation à durer, plus elle aura des impacts négatifs sur l'activité.
Au deuxième trimestre, le PIB a progressé de 0,3% selon l'INSEE, une hausse bien plus franche qu'attendue. Malheureusement, cette légère embellie économique devrait être entièrement effacée par la censure du gouvernement Bayrou.
L'actualité à l'étranger avec cet attentat à Jérusalem-Est. Deux Palestiniens ont ouvert le feu à un arrêt de bus alors que les véhicules étaient bloqués par la circulation. Ils ont tué 6 personnes. Les assaillants ont été tués à leur tour par un militaire et un civil armé qui étaient à proximité de la scène. C'est l'attentat le plus meurtrier depuis l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023. Et puis l'actualité de l'automobile avec ce petit événement au salon de Munich. Renault a présenté la Clio 6. La Clio est la voiture la plus vendue en France et en Europe depuis 35 ans et cette V6 propose quelques changements notables par rapport à ses grandes sœurs. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
C'est surtout un sacré changement de design. Renault assume un aspect plus clivant, plus sportif pour cette sixième génération. La Clio est un peu plus large, un peu plus grande et veut attirer les regards. Fabrice Cambolive, directeur général de Renault.
Quand on la regarde, finalement, elle a une expressivité avec notamment une face arrière avec 4 feux flottants qui lui donnent beaucoup de dynamisme. Une calandre et une face avant extrêmement affûtées. Des optiques qui sont quasiment dessinées au mascara. Ça fait une voiture extrêmement moderne.
Autre choix d'importance, pas de version électrique pour ça. Il y a déjà la R5, présente également à Munich. Il y aura une version essence, GPL et surtout un moteur hybride nouvelle génération.
C'est clair que l'hybride, pour donner une image, c'est le nouveau diesel. Vous voyez sur le moteur hybride de la Clio, c'est 1000 km d'autonomie et surtout une consommation à moins de 4 litres, 3,9, qui en fait une véritable alternative au diesel.
Enfin, dernier parti pris, la technologie dernier cri sera présente avec le système Google intégré. Pas de prix annoncé pour l'instant, elle arrivera sur le marché en 2026.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à la question d'hier. Après la diffusion d'une vidéo montrant deux journalistes de France Inter, Thomas Legrand et Patrick Cohen, tenir des propos litigieux visant la ministre de la Culture devant des responsables du PS, 80% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS sont favorables à la création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur la neutralité de l'audiovisuel public. Ils sont 20% à ne pas y être favorables. Et puis voici notre question du jour. Juliette Collet a été élue Miss Nouvelle-Calédonie 2025. Selon vous, est-ce une belle image pour représenter la Nouvelle-Calédonie au concours Miss France? Si vous pensez que c'est une belle image, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. À 11h43, la première pause dans ce journal. On se retrouve dans un petit instant pour évoquer l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment la première affaire jugée devant les assises de Nouméa ce matin.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Il suffit parfois de voir les choses autrement. Et si la formation était la solution?
Artisans, chefs d'entreprise, en activité ou en reconversion?
Aujourd'hui, plus que jamais, la CMANC est à vos côtés avec des formations pensées et créées pour vous.
Vous souhaitez obtenir une qualification ou un diplôme dans les domaines techniques, la gestion, la communication, le numérique ou la réglementation?
Nos formations concrètes et pratiques sont accessibles à tarifs préférentiels, en partie financées avec le 3FA.
Venez renforcer vos compétences et faire évoluer votre activité.
Contactez nos conseillères au CFA au 25 01 71 à Nouméa ou au 47 30 14 à Gonnet. Retrouvez toutes nos formations sur cma.nc.
Il attire tous les regards et change les règles du jeu. Le nouveau Kia Sportage arrive en Nouvelle-Calédonie avec, pour la première fois, une motorisation hybride. Plus grand, plus confortable, plus économe en carburant. Osez un SUV qui ne fait aucun compromis. Kia Sportage, élégance et performance réunies.
Autocal 198 rue Jacques Ekaoué. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Une page consacrée à l'actualité en Calédonie est d'abord la justice avec cette affaire de meurtre sur fond d'alcool jugée depuis ce matin devant les assises de Nouméa. C'est le premier dossier appelé au rôle de cette troisième session d'assises de l'année. Un homme est accusé d'avoir tué son voisin en 2021 au palais de justice. On retrouve Nicolas Legrand.
Oui, une affaire de guerre de voisinage à Ducos. Les deux hommes, qui étaient auparavant des grands amis, étaient en froid depuis plus de 2 ans au moment des faits. Darik Igoa, qui est aujourd'hui jugé pour ce meurtre, déclarait qu'Emile, sa future victime, était un pédophile. S'en sont suivies des menaces de mort et des altercations à répétition. L'accusé se prétend même persécuté et menacé par celui qu'il finira par tuer. À plusieurs reprises, ils en étaient d'ailleurs venus aux mains et parfois la situation s'était envenimée à en frôler le drame. Coup de feu en l'air et même coup de sabre d'abattis au visage. L'accusé purgeait d'ailleurs une peine sous bracelet électronique pour avoir asséné un coup de sabre à son voisin avant ce funeste soir de mai 2021. Ce jour-là, les deux hommes ont beaucoup bu. L'accusé présentait un taux de 0,70 mg d'alcool par litre d'air expiré. Et comme à leur habitude, les deux hommes finissent par s'insulter, puis en viennent aux mains une première fois. Ils seront finalement séparés par deux témoins. Quelques minutes plus tard, les tensions sont ravivées. Et ce coup-ci, l'accusé est armé d'une paire de ciseaux de fabrication artisanale et finit par en donner plusieurs coups au corps de sa victime, qui tombera en ayant perdu beaucoup de sang et décédera finalement à l'hôpital 2 jours plus tard. C'est sa fille, alors âgée de 11 ans, qui a été réveillée par les cris, qui l'a découvert blessée et qui donnera l'alerte. Un événement, vous l'imaginez, extrêmement traumatisant pour une préadolescente. Le président de la cour d'assises précisera plus tard dans les débats qu'elle avait fini par se donner la mort 3 mois plus tard. L'accusé reconnaît les faits, même si au cours de l'enquête, il est revenu sur ses dépositions. Il avait par exemple déclaré au départ avoir donné les coups alors que la victime le maîtrisait et le menaçait de mort. Une version finalement contestée lors de la reconstitution des faits. Lors de l'audience qui a commencé, il a commencé par demander pardon pour avoir, dit-il, détruit la famille Finao. Darik Igoa est ensuite passé à la barre pour son examen de personnalité. Cet homme, boxeur, qui a toujours travaillé dans le bâtiment, reconnaît avoir eu un problème avec l'alcool depuis son plus jeune âge. Il dit avoir suivi le chemin de son père qui lui aussi buvait et devenait violent. L'alcool, c'est votre mauvais compagnon de route, lancera le président du tribunal. Nul doute que, comme souvent, cet élément sera au cœur des débats durant 2 jours, puisque cette première matinée était consacrée au rappel des faits, à l'examen de la personnalité de l'accusé et au premier témoignage. Le verdict, lui, est attendu demain. Au tribunal de Nouméa, Nicolas Legrand, RRB.
Et puis au chapitre des faits divers, un mort dans l'accident de voiture qui s'est déroulé le week-end dernier à la Vallée du Tir. Une voiture avait percuté un poteau tôt samedi matin. À son bord, un homme et une femme grièvement blessés qui avaient été transportés vers le Médipôle. L'homme de 35 ans, originaire de Lufou, est donc décédé des suites de ses blessures hier soir. L'autre victime devrait s'en sortir selon nos informations. Ce décès porte à 24 le nombre de personnes tuées sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. La province Sud poursuit le déploiement de son plan Collège Nouvelle Génération. Après le collège de Porte-de-Fer l'an dernier, c'est désormais celui de Tuban qui bénéficie de nouvelles améliorations, Léana Colombo.
L'établissement est effectivement depuis peu doté de pergolas situées dans la cour de récréation. Ces dernières, presque entièrement réalisées en bois, permettent aux élèves de travailler en plein air tout en se protégeant du soleil. Les aménagements ont été co-conçus avec le lycée Petro Atiti. Et dans le courant de l'année, des plantes devraient être installées pour ajouter de la verdure aux structures. Autre nouveauté, la rénovation du CDI. Ce lieu d'apprentissage a été repensé avec des espaces adaptés et optimisés pour la réussite des élèves. Sina a 15 ans, il est actuellement en 3e au collège de Tuban. Il est l'un des porteurs de ce projet qui a débuté il y a 4 ans.
Ça a commencé en 6e lors des réunions CVC. Je me sentais impliquée et je voulais améliorer le collège. Du coup, j'ai présenté des projets et je les ai menés à bout. Ces projets consistent à rénover le collège, à rajouter de l'ombre, rajouter des endroits où s'asseoir. Je les utilise pour travailler, pour m'abriter du soleil. Et au CDI, il y a eu beaucoup de rénovations. On a ajouté des meilleures chaises, les livres sont plus accessibles. C'est vraiment un endroit de partage, de bien-être.
Et de tranquillité, j'imagine.
Tout à fait.
Une inauguration de ces aménagements s'est déroulée ce matin au collège, en présence notamment de Gilles Brial. Le deuxième vice-président de la province Sud a particulièrement été impressionné par le CDI et l'implication des élèves.
Très agréablement surpris. C'est vraiment une transformation de l'espace avec les anciens CDI où on était posé d'un côté avec les livres et les ordinateurs de l'autre. À vraiment quelque chose de plus fonctionnel, de plus calme. On sent qu'il y a un gros travail de sonorisation qui a été fait. Et le portage, encore une fois, par les équipes pédagogiques de projet où la province finalement n'intervient que en financement pour réaliser un projet qui est porté soit par les enseignants, soit par les élèves ou les parents d'élèves. On voit vraiment que ça correspond aux besoins et aux usages. Et là, on est vraiment dans un CDI hyper moderne avec une appropriation plus importante des élèves, puisque depuis qu'il a ouvert, la documentaliste a pu noter une augmentation de la participation des élèves. Donc, ça veut dire qu'on finalement, on a atteint un objectif, rendre quelque chose de plus ludique dans le sens que chacun puisse y trouver ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire qu'il puisse se poser dans le calme, lire, travailler sur son ordinateur, jouer aux échecs, tout ça dans un espace complètement rénové.
Le montant total de la subvention provinciale s'élève à un peu moins de 29 millions de francs. Le dispositif Collège Nouvelle Génération est pour le moment en pause, faute de financement suffisant de la part de la province sud depuis les émeutes de l'année dernière. Le dernier établissement à en avoir bénéficié est le Collège de Boulary. Une inauguration aura lieu prochainement en présence d'élus provinciaux.
L'armée continue d'attirer les jeunes Calédoniens, notamment l'armée de l'air et de l'espace. Le 15 septembre prochain, une jeune Calédonienne signera son contrat d'engagement sur la base aérienne de la Tontouta. Avant de partir en métropole pour entamer sa formation de sous-officier, elle sera la centième engagée en 2025 au sein de l'armée de l'air et de l'espace. La cérémonie est donc prévue le 15 septembre. Une nouvelle journée remarquable ce mardi pour Rêve de Gosse NC. Un moment de partage depuis ce matin entre des enfants ordinaires et des enfants extraordinaires, Léo Fichou.
Oui, plus de 100 enfants sont rassemblés à l'ACH à Nouville. Deux classes de CM2, deux classes pour l'inclusion scolaire, dite CLIS, et plusieurs associations spécialisées. À des enfants ordinaires et extraordinaires qui se retrouvent pour la deuxième fois après la réussite de la première journée remarquable qui était organisée à la fin du mois de juin dernier. À l'origine de ce projet, le Rotary Club Nouméa Wentoro, Manuel Berthier, co-organisateur de Rêve de Gosse NC.
On a le recul, on a déjà vécu une journée remarquable au mois de juin et entrecoupée de plusieurs petites rencontres entre groupes d'enfants ordinaires et extraordinaires. Et la dernière journée qui a eu lieu, les enfants sont tous repartis avec vraiment des étoiles dans les yeux et vraiment avec un sentiment d'avoir passé un bon moment avec tous les enfants. Maintenant, ils commencent à se connaître en plus. Le but, c'est vraiment que les enfants se rencontrent et passent du temps ensemble. Et tout ça autour d'activités. Donc, vous allez avoir un parcours fauteuil où des enfants ordinaires vont faire des courses de fauteuil, des déplacements en fauteuil en tout cas. Vous avez des ateliers collage, peinture, des chants, des danses.
Et les enfants partagent de nombreuses activités, donc depuis ce matin, des activités qui, sans aucun doute, rapprochent les enfants ordinaires et extraordinaires.
Et je trouve que c'est bien, enfin, c'est amusant et tout.
J'aime bien être avec des enfants qui ne sont pas comme nous, comme ça on apprend plus sur eux.
Moi je trouve que c'est super bien c'est bien de rencontrer des gens et tout.
Moi je trouve que c'est bien de faire plaisir à des gens. Et aussi les enfants qui sont extraordinaires, peut-être qu'ils sont contents parce qu'ils voient des enfants qui sont pas comme eux et ils peuvent partager des moments avec eux parce qu'on fait des trucs adaptés pour les fauteuils roulants ou ceux qui sont aveugles.
Une deuxième journée remarquable organisée donc aujourd'hui avant le grand rendez-vous qui est prévu début octobre. Ce sera à l'aérodrome de Magenta. Les enfants ordinaires et extraordinaires partageront un vol au-dessus du lagon tous ensemble.
11h53, on va se retrouver dans un instant pour la page sport. On parlera notamment football avec le match de la France contre l'Islande demain matin. Et puis nous entendrons Yolène Niengo, la Calédonienne de passage en Calédonie, avant de rejoindre le Japon où elle va jouer au rugby à 15 dans sa nouvelle équipe.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Fais appel à tes collègues préférés et participe au CIPAC Challenge. Du 6 au 20 octobre, participez au plus grand challenge sportif interentreprise de Calédonie. Vous avez 15 jours pour bouger et faire un maximum de pas. Chaque jour, un défi sera relevé sur l'application pour gagner encore plus de points. Fais gagner ton équipe, ton entreprise ou même ton association pour remporter un des nombreux lots. Inscrivez-vous dès maintenant sur la page Facebook CIPAC Challenge. Le CIPAC Challenge, ensemble, on va plus loin.
Solde chez Global Partenze à Ducos. Du 1er au 28 septembre, profitez de moins 40% sur tous les pneus en stock. Oui, 40% sur les marques Apollo, Rodix et Royal Black. Dépêchez-vous, c'est le moment de changer vos pneus après-midi. Retrouvez-nous au 30 rue Lucien Hervouet à Ducos ou appelez le 286 000. Global Partenze, la qualité au meilleur prix. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Attention, bon plan explosif. Profitez de moins 20% de remise sur tous les vêtements Under Armour. Rendez-vous dans votre boutique Project Under Armour Nouméa en plein centre-ville. Offre valable du 26 août au 27 septembre seulement, alors dépêchez-vous.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Avec d'abord du football, l'équipe de France jouera demain matin son deuxième match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ce week-end, les Bleus ont débuté leur parcours de la meilleure des façons en battant l'Ukraine 2-0. Demain, ils retrouvent une équipe a priori à leur portée. Cyril Delamorinerie pour Europe 1.
Les Bleus retrouvent une vieille connaissance, l'Islande. Sensation de l'Euro 2016 que l'équipe de France avait éliminée en quart de finale. Depuis le Mondial 2018, les Scandinaves ont régressé. Ils n'ont pas participé aux dernières grandes compétitions internationales. Les Vikings sont désormais moins bien classés que le Cap-Vert au classement FIFA. Mais sur Europe 1, Didier Deschamps met en garde ses joueurs. Au-delà de leur qualité physique, les footballeurs islandais ont aussi beaucoup de talent.
Ce n'est pas des bûcherons. Évidemment, il y a une dominance athlétique qui est là. Et notamment les touches qui deviennent des corners. Ça fait partie des bonnes équipes européennes.
Mais les Bleus vainqueurs faciles de l'Ukraine 2-0, emmenés par un formidable Michael Olise, restent évidemment favoris, confirme le consultant d'Europe 1, Alain Giresse.
Je crois qu'on peut être relativement confiant parce qu'effectivement on a vu un jeu français qu'on a envie de voir, de retrouver et qui nous a séduit et qui est performant.
Et les Bleus joueront au Parc des Princes, l'ambiance y sera tout aussi exceptionnelle qu'au Stade de France. Le célèbre clapping popularisé par les supporters islandais devrait retentir dans l'enceinte parisienne.
Du tennis maintenant, et Corentin Moutet et Giovanni Empechi-Pericard sont sélectionnés en équipe de France pour disputer le deuxième tour des qualifications à la Coupe Davis, Léo Fichou.
Les deux hommes remplacent Hugo Humbert qui avait été dans un premier temps sélectionné et Arthur Fils qui se remet lui toujours d'une blessure au dos. Corentin Moutet 39e à l'ATP et Giovanni Empechi-Pericard 36e rejoignent donc Benjamin Bonzi, Arthur Hinderknecht et Pierre Hugerbert. Les Bleus se déplaceront en Croatie ce week-end. Les rencontres se joueront sur terre battue en intérieur. Le gagnant de ce duel entre la Croatie et la France sera qualifié pour la phase finale de la compétition, phase finale de la Coupe Davis qui est prévue à Bologne en Italie du 18 au 23 novembre.
Et on va terminer avec du rugby et la visite ce matin dans nos locaux de Yolène Yengo. La Calédonienne termine ses vacances aujourd'hui et elle va rejoindre son équipe, le Yokohama TKM au Japon. Fait important, elle va passer du rugby à 7 au rugby à 15.
Deux semaines de vacances et puis s'en va après une saison en rugby à 7 au Japon. Donc Yolène Yengo avait besoin de souffler, de retrouver ses proches et de recharger les batteries. Avant de prendre l'avion ce soir, la Calédonienne est venue nous raconter son aventure nippone. 6 mois en rugby à 7 avec une très belle 3e place lors du tournoi final et une nouvelle saison qui s'annonce déjà en rugby à 15, toujours avec son club, le Yokohama TKM.
Un séjour de 6 mois, normalement, c'était que 6 mois, saison à 7. Et je pense que le club était vraiment content de ma performance, donc ils ont voulu prolonger un peu l'aventure. La culture japonaise est vraiment incroyable, donc moi, ça m'a vraiment plu. Et derrière, avec mes coéquipières, ça se passe très très bien, donc j'avais envie de continuer l'aventure avec elles et découvrir un peu comment ça se passe le 15 au Japon. Pour après, ça me fait quand même des bagages pour plus tard si je dois revenir et tout. Ouais, du coup, je me suis lancée pour le 15, mais c'est surtout pas parce que l'ambiance dans mon club, ça se passe très très bien.
Yolène Yengo en a profité pour saluer les performances de ses copines qui sont actuellement en équipe de France, les Bleus qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.
Je suis très 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 fière d'elle, vraiment. Et bon, après, il y a des copines de cœur qui sont là quand elles rentrent sur le terrain. Je suis là, yes, allez, let's go. Mention très spéciale à Séraphine Okamba et Johanna Grisé, qui sont mes amis très très proches. Et de les voir performer, ça me fait vraiment très plaisir. Et voilà, là, ils sont en quart de finale contre l'Irlande, une équipe qu'il ne faut pas non plus sous-estimer parce que c'est une belle équipe en face. Donc ils ont aussi leur supporter qui est à côté, hein, mais nous aussi. Donc j'espère qu'elles vont tout donner en tout cas et qu'elles vont aller plus loin. Après la suite, on ne va pas parler de suite, on va déjà voir ce qui va se passer en quart.
France-Irlande en quart de finale donc de la Coupe du Monde de rugby au féminin, c'est à suivre ce week-end. On notera aussi que Yolène Yengo compte de nombreuses sélections en bleu, 2 avec le 15 de France, surtout plus d'une centaine avec l'équipe de France à 7. La Calédonienne qui avait d'ailleurs remporté la médaille de bronze à la Coupe du Monde de rugby à 7, c'était en 2022.
Merci Léo, c'est la fin de ce journal.